Ne cours pas. Veste ferme.
Il y a quelques mois, mon frère a eu une nouvelle montre connectée, alors il m'a donné son ancienne. Je n'ai jamais vraiment voulu de montre connectée. Mais avec le temps, j'ai commencé à l'apprécier, principalement parce qu'elle mesure mon activité physique. J'essaie de marcher au moins 10 000 pas par jour, et la montre le mesure. Si je faisais quelque chose d'actif, comme faire du vélo, elle le reconnaissait et le mesurait aussi. Mais elle remarquait également si je n'étais pas assez actif. Par exemple, si j'étais resté assis pendant 1 heure et demie, la montre vibrait et disait « Il est temps de se lever ». Alors je me levais et faisais un tour au 3e étage. J'aimais le fait que la montre me rappelle de me lever. J'avais besoin de ce rappel pour me lever. Ce matin, je veux poser la question, également comme un rappel. Es-tu debout, à la place où Dieu t'a appelé? Tiens-tu fermement la position dans laquelle Dieu t'a placé? Ou es-tu assis là, de façon passive? Ou pire encore, fuis-tu l'endroit où Dieu t'a placé?
À quoi cela ressemble-t-il, de tenir ferme à la place où Dieu t'a placé? Et à quoi cela ressemble-t-il d'essayer de fuir cette place? C'est ce sur quoi je voudrais que nous réfléchissions ce matin. Donc, si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Exode, chapitre 3. C'est un texte auquel j'ai beaucoup pensé ces 2 dernières semaines. La semaine dernière, j'étais absent pour une conférence, et pendant ma session, j'ai enseigné sur ce texte. Et j'ai été rappelé de l'importance des leçons tirées de cette histoire. Le contexte est que le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Et après avoir tué un Égyptien, Moïse s'est enfui au pays de Madian, où il a rencontré Jéthro, qui lui donna sa fille en mariage. À Madian, Moïse est devenu berger, c'est là que nous reprenons l'histoire dans Exode 3, versets 1 à 4.
1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à Horeb. 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait pas. 3. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir ce prodige. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» 4. L'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Ainsi nous voyons Moïse vivre la vie d'un berger. Et à ce stade, il avait été berger pendant longtemps, probablement environ 40 ans.
Beaucoup de temps s'est écoulé, depuis qu'il a tué l'Égyptien au chapitre 2.
Il y a un nouveau roi en Égypte.
Moïse vit donc sa vie, menant son troupeau jusqu'à la montagne de Horeb, que nous connaissons aussi sous le nom de Mont Sinaï. Et à cause de ce qui va s'y passer, elle sera aussi appelée la montagne de Dieu, comme il est dit au verset 1. Il s'occupe de ses brebis lorsque, soudain, un ange de l'Éternel lui apparaît du milieu d'un buisson en feu. Le buisson brûlait, mais ne se consumait pas. Il restait en feu. Le feu est un signe de la présence de Dieu dans le livre de l'Exode. Plus tard, Israël sera conduit par Dieu au moyen du feu et d'une nuée. Mais revenons au buisson. Dieu apparaît à Moïse à travers le buisson ardent. C'est ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire Dieu se manifestant d'une manière que les êtres humains peuvent voir et entendre. Nous voyons cela à d'autres endroits dans l'Ancien Testament. C'est toujours puissant et toujours intense. Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, Jésus est Dieu dans toute sa plénitude. La parole a été faite chair et a habité parmi nous.
Ainsi, Dieu apparaît à Moïse à travers le buisson ardent et l'appelle Moïse, Moïse, et Moïse répond « Me voici ». Moïse est en train de rencontrer le Dieu puissant de l'univers. Puis il dit « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens qui est une terre sainte. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage, car il avait peur de regarder Dieu. Dieu dit, « N'approche pas. Ôte tes chaussures, car tu te tiens sur une terre sainte. » C'est la première fois dans la Bible que la sainteté de Dieu est mentionnée. La sainteté de Dieu est une de ses caractéristiques fondamentales. La sainteté de Dieu fait référence à la pureté morale absolue de Dieu et à la distance morale absolue entre Dieu et ses créatures humaines qui pêchent. Être saint signifie être séparé, mis à part de tout le reste. Pour le dire autrement, Dieu est autre que nous. La meilleure comparaison que j'ai entendue concernant la sainteté de Dieu est celle avec le soleil. Le soleil est puissant, il donne la vie à notre planète. Mais le soleil est aussi dangereux. Si vous vous approchez trop près du soleil, vous mourrez. De la même manière que dans cette histoire avec Moïse, la présence de Dieu est dangereuse pour Moïse, un humain ordinaire. Ce n'est pas parce que la sainteté de Dieu est mauvaise, mais parce que la sainteté de Dieu est tellement bonne. Ainsi, tout comme le soleil, Dieu dit à Moïse de ne pas s'approcher trop près, car la sainteté de Dieu est tellement intense. Au verset 7, Moïse cache son visage devant Dieu. Non pas parce que Dieu est mauvais, mais parce que Dieu est tellement bon et tellement saint. Il dit à Moïse d'ôter ses sandales, car il se tient sur une terre sainte. Il n'y a rien de particulier à propos du sol lui-même. C'était un sol ordinaire la veille. Ce qui rend le sol saint, c'est la présence de Dieu. C'est la présence sainte de Dieu qui rend ce sol différent. La sainteté de Dieu nous aide à comprendre l'Évangile. Parce que Dieu est saint, il ne peut avoir aucun rapport avec le péché. Le pur ne peut pas s'associer avec l'impur. C'est pourquoi il y a tant de versets dans l'Ancien Testament à propos de ce qu'il faut faire lorsque l'on devient impur. Mais ensuite, Jésus vient, Dieu fait chair, et il passe du temps avec des personnes impures. Il va même jusqu'à les toucher. Mais Jésus ne devient pas impur. Au contraire, il leur transmet sa pureté. Et c'est cela l'Évangile. Nous étions des pécheurs impurs, sans accès à Dieu, incapable de nous approcher de lui parce qu'il est saint. Mais Jésus descend et ouvre un chemin. Il meurt sur la croix pour notre péché comme sacrifice parfait. Il fut enseveli, mais ressuscita 3 jours plus tard. Et lorsque nous croyons en lui, sa justice nous est transférée. Nous sommes désormais saints aux yeux de Dieu, non à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de la croix. Et maintenant, nous sommes le Saint-Temple de Dieu. Nous sommes ses instruments pour apporter le salut et la guérison à un monde perdu et brisé. Encore une chose au sujet du verset 6, car nous voyons cela souvent dans le livre de l'Exode et dans l'Ancien Testament. Dieu dit à Moïse qu'il est le Dieu de son père et d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu rappelle à Moïse qu'il fait partie du peuple de Dieu. Il rappelle à Moïse qu'il appartient à ce peuple. Il rappelle à Moïse qu'il n'est pas seul. Parfois dans la vie, nous pouvons nous sentir tellement seuls. Nous pouvons avoir l'impression que tout dépend de nous. Nous pouvons nous sentir déconnectés et isolés. Nous pouvons penser que personne ne pourrait comprendre ce que nous traversons. Et pourtant, il y a beaucoup de saints qui savent ce que nous vivons. Il y a beaucoup de croyants fidèles qui nous ont précédés dans la foi. Dieu rappelle à Moïse qu'il fait partie d'une communauté de foi, avec des personnes qu'il n'a même jamais rencontrées. Des gens qui l'ont précédé, Dieu dit, « Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. » Et qu'est-ce que cela implique? Qu'il est le Dieu de Moïse. Je veux simplement vous encourager aujourd'hui, en vous rappelant que tout comme Dieu était avec Abraham, Isaac et Jacob, il est aussi avec vous. Il est le Dieu qui est avec vous. 7:10, alors l'Éternel dit, « J'ai bien vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris à cause de leurs oppresseurs. je connais leur souffrance. 8. Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et les faire monter de ce pays, vers un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel, vers le territoire des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. 9. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai aussi vu comment les Égyptiens les oppriment. 10. Va, je t'enverrai vers Pharaon, afin que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse rencontre Dieu, et maintenant Dieu dit à Moïse ce qui va se passer. Il dit à Moïse qu'il a vu ce qui est arrivé à Israël en Égypte. Il a entendu leurs cris. Il connaît leurs souffrances. Dieu n'a pas ignoré son peuple. Au contraire, Dieu a prêté attention à ce qui se passait, et il a été ému d'agir. Pour le dire simplement, Dieu s'est soucié de son peuple. Et Dieu continue de prendre soin aujourd'hui. 1 Pierre 5 nous dit de remettre nos inquiétudes à Dieu, parce qu'il prend soin de vous. Tout ce qui est dit au verset 7, au sujet d'Israël, est vrai pour vous aujourd'hui. Il voit ce que vous traversez. Il entend vos cris et vos prières. Il connaît vos souffrances. Dieu ne vous a pas ignoré. Au contraire, Dieu prête attention à ce qui se passe dans votre vie. Pour le dire simplement, Dieu prend soin de vous. Dieu est ça, mais Dieu est aussi amour. Dieu dit à Moïse qu'il se préoccupe de la situation d'Israël et qu'il va agir. Il va les délivrer de l'Égypte pour les conduire dans le pays promis qu'il avait promis à Abraham. Dieu va faire sortir son peuple. Et comment va-t-il s'y prendre? Verset 10. Dieu va le faire par l'intermédiaire de Moïse. Dieu dit, « Moïse, je t'enverrai en Égypte pour faire sortir mon peuple de là. » Maintenant, on pourrait s'attendre à ce que Moïse soit enthousiaste et prêt à partir. Après tout, au chapitre 2, il avait tué l'Égyptien qui oppressait un de ses frères israélites. Au chapitre 2, il était plus jeune. À l'époque, il avait cette fougue. Il avait cette assurance. Il était jeune. Il était idéaliste. Mais, comme je l'ai dit, beaucoup de temps s'est écoulé entre Exode 2 et Exode 3. Près de 40 ans. Et comme nous allons le lire, Moïse n'est plus le même homme qu'il était à ses débuts. La fougue a presque disparu. L'assurance n'est plus là. Sa vie ne s'est pas déroulée comme il l'avait espéré. Peut-être pouvez-vous aussi vous identifier à cela. Comment savons-nous que la flamme de Moïse est presque éteinte? Eh bien, nous allons lire les fameuses 5 objections de Moïse. Dieu vient de dire à Moïse qu'il allait l'utiliser pour faire sortir son peuple d'Égypte. Mais Moïse a des questions, Moïse a des doutes. Lorsque nous lisons ces doutes et ces questions, peut-être que vous pouvez vous identifier à l'un d'eux ou à plusieurs. Versets 11 et 12, 11. Mais Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour que j'aille vers Pharaon et que je fasse sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» 12. Dieu dit, « Je serai avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Premier doute, « Je ne suis pas qualifié. » La réponse de Moïse au plan de Dieu pour lui, c'est « Qui suis-je ? Qui suis-je pour aller en Égypte et conduire ton peuple dehors ?»« Je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis personne. Je n'ai pas le bon CV. Je n'ai pas le bon parcours. Qui suis-je ?» Sur le papier, Moïse a en fait raison. Je veux dire, qui est-il ? Il ne semble pas très qualifié. Il a tué un Égyptien ce fameux jour. Mais les 40 dernières années, il les a passées à s'occuper de moutons. Cela ne ressemble pas vraiment au profil de quelqu'un qui va aider à diriger une révolution, n'est-ce pas? Mais regardez la réponse de Dieu. Dieu ne dit pas à Moïse, « Non, tu es suffisamment bon. Tu es suffisamment fort. Tu peux le faire. » Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu ne parle pas des qualifications de Moïse. Dieu ne parle pas du CV ou du parcours de Moïse. Dieu dit simplement, « Mais Moïse, je serai avec toi. » Dieu n'essaie pas de gonfler l'estime de soi ou les capacités de Moïse. Dieu n'essaie même pas de faire en sorte que Moïse se sente mieux dans sa peau. Au contraire, Dieu va droit au but et dit, « Mais je serai avec toi. » Et cela suffit. Ce n'est pas à propos de toi, Moïse. Dieu dit, c'est à propos de moi. Je serai avec toi. Si Dieu nous appelle quelque part ou à quelque chose, alors la présence de Dieu nous y conduira. Sans lui, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, nous le pouvons.
Quelles sont quelques-unes des dernières paroles de Jésus avant qu'il ne monte au ciel? Il a donné à ses apôtres une tâche, la grande commission, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà la tâche. Voilà la mission. Voilà aussi notre mission. Et Jésus accompagne l'appel à la mission de la promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours.
Le fait que Dieu soit avec toi suffit. Cela a suffi pour Josué. Avant que Josué ne conduise Israël dans la terre promise, Dieu lui a dit, « Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Dieu est avec toi. Il ne te laissera pas seul. C'est là que tout commence. »
Qui suis-je? Par moi-même, pas grand-chose.
Mais avec le Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie, le Christ. 13:13. Moïse dit alors à Dieu, « Si je vais vers les enfants d'Israël et que je leur dis, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me demandent, « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je ? » Doute numéro 2. Je ne sais pas assez. Moïse avait peur de ne pas avoir toutes les réponses nécessaires pour conduire le peuple de Dieu. Il avait peur de ne pas savoir quoi dire. As-tu déjà ressenti cela? Peut-être as-tu senti que Dieu t'appelait à t'impliquer dans un certain ministère, mais tu t'es dit, « Et s'il me pose des questions là-dessus? Ou s'il me pose des questions à ce sujet? » Et il peut être facile de ne pas faire ce pas de foi vers le ministère, par crainte de ne pas avoir toutes les réponses.
La vérité, c'est que nous n'aurons jamais toutes les réponses.
Nous ne saurons jamais tout.
La question est, où vas-tu avec ces questions? Vas-tu vers Dieu avec ces questions? Vas-tu vers sa parole pour trouver les réponses? Vas-tu vers son peuple afin d'apprendre et de grandir davantage? Ou bien te retires-tu simplement? Fuis-tu ce à quoi Dieu t'appelle, au lieu d'essayer de trouver les réponses? Ce qui est extraordinaire chez Moïse ici, c'est qu'il est honnête avec Dieu.
La Bible dit que lorsque tu recherches le Seigneur de tout ton cœur, tu le trouveras.
Et lorsque Moïse pose la question à Dieu, Dieu lui répond. 14:22-14.
Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. »
Et il ajouta, « Tu diras ceci aux enfants d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous. »
15. Dieu dit encore à Moïse,
« Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. C'est ainsi que l'on se souviendra de moi de génération en génération. »
16.
Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, « L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu et m'a dit, « Je vous ai observé et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. »
17.
Et j'ai dit que je vous ferai monter de l'affliction de l'Égypte vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel.
18. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz,
« L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert, afin que nous offrions des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. »
19.
Mais je sais que le roi d'Égypte
ne vous laissera point partir, s'il n'y est pas contraint, par une main puissante. 20. J'étendrai donc ma main et je frapperai l'Égypte, par tous les prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. 21. Je ferai en sorte que ce peuple obtienne la faveur des Égyptiens. Et lorsque vous partirez, vous ne partirez point les mains vides. 22. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des objets d'argent et d'or, et des vêtements. Vous les mettrez sur vos fils et vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens. Moïse avait une question au sujet du nom de Dieu. À l'époque, les Égyptiens avaient différents dieux avec toutes sortes de noms. Et nous voyons dans la Bible que les noms étaient très importants. Les noms décrivaient l'essence même de quelqu'un. Le nom de Moïse signifiait « tiré hors de l'eau ». La fille de Pharaon lui donna ce nom parce qu'elle l'avait tiré des eaux du fleuve. Mais Moïse allait aussi plus tard tirer le peuple de Dieu hors d'Égypte. Ainsi, les noms étaient chargés de sens. Et Moïse demande à Dieu comment il devra l'appeler lorsque le peuple l'interrogera. Et Dieu dit de dire, « Je suis celui qui suis ». C'est ce que nous appelons le tétragramme, ce qui signifie quatre lettres. Car Dieu dit de l'appeler YHW. Dans la traduction anglaise, vous verrez Lord en majuscule lorsque ce nom de Dieu est utilisé. À l'époque, les voyelles n'étaient généralement pas écrites, mais nous les ajoutons aujourd'hui et nous disons Yahweh. Le nom Jéhovah est la forme latine de ces quatre lettres, J-H-V-H. Alors que signifie ce nom? Eh bien, ces quatre lettres, YHW, viennent du mot hébreu qui signifie être. Chaque fois que vous apprenez une nouvelle langue, l'un des premiers verbes à apprendre est le verbe être. Vous devez donc apprendre « je suis, tu es, il est » et ainsi de suite. Et Dieu dit ici qu'il est simplement « être ». Il a toujours existé et Dieu ne dépend de personne ni de rien d'autre. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus confirme cela dans Jean 8 lorsqu'il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». Et les gens veulent le lapider parce qu'ils ont contrit ce que Jésus disait. Jésus affirmait qu'il était et est le grand je suis. Plus tard, Jésus déclare « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection. » Et ainsi de suite. Ainsi, en réponse à la première question de Moïse, Dieu dit « Je suis avec toi ». En réponse à sa seconde question, Dieu dit « Tu peux compter sur moi, car je ne dépends de rien d'autre. J'ai toujours été et je serai toujours. » D'abord, Dieu réconforte Moïse par sa présence. Ensuite, Dieu réconforte Moïse par son caractère. C'est pourquoi il est si important de savoir qui est Dieu. Plus nous le connaissons, plus nous lui faisons confiance. Après avoir répondu à la question de Moïse, le Seigneur donne plus de détails sur son plan pour faire sortir son peuple d'Égypte. Dieu dit à Moïse ce qu'il doit dire à son peuple. Et au verset 18, Dieu dit, « Ils t'écouteront. » Mais remarquez l'objection de Moïse dans 4:1.
Alors Moïse répondit, « Mais voici, ils ne me croiront pas, et n'écouteront pas ma voix, car ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » Doute numéro 3, « Je n'ai pas assez d'influence. » Moïse dit, « Ils ne me croiront pas. » Personne ne m'écoutera. Je n'ai pas assez d'influence. Personne ne m'écoutera. Peut-être que Moïse pensait à son passé, ou peut-être qu'il pensait à son statut actuel de berger. Quoi qu'il en soit, il ne pensait tout simplement pas que les gens l'écouteraient. Êtes-vous déjà passé par là? Ce qui nous empêche de faire ce pas de foi, ce ne sont pas les personnes autour de nous, mais ce que nous pensons que ces personnes pourraient dire à notre sujet. Cela pourrait être votre famille. Cela pourrait être votre groupe d'amis. Cela pourrait être vos collègues. Cela pourrait être vos voisins. Et peut-être sentez-vous que Dieu vous appelle à faire un pas de foi avec eux. Peut-être les inviter à une étude biblique. Peut-être prier avec eux. Peut-être parler de sujets profonds plutôt que de choses superficielles.
Mais au lieu de penser aux choses extraordinaires qui pourraient en découler, vous commencez à imaginer toutes les conséquences négatives qui pourraient survenir. Certes, ces choses pourraient arriver. Mais avez-vous pensé à ce qui pourrait se passer s'il vous écoutait? Il y a de grandes chances que vous ayez plus d'influence que vous ne le pensez. Il est facile de penser comme Moïse, ils m'écouteront pas. Mais je parie qu'il y a des personnes dans votre vie qui respectent votre avis et qui veulent savoir ce que vous pensez.
Ne perds pas la bataille avant même qu'elle n'ait commencé. C'est Dieu qui est responsable des résultats. Nous sommes simplement appelés à transmettre le message, comme Moïse. Encore une fois, Moïse présente une objection à Dieu, et Dieu répond avec grâce. L'Éternel lui dit, « Qu'as-tu dans la main ?» Il répondit, « Un bâton. » Et il dit, « Jette-le à terre. » Il le jeta à terre et il devint un serpent, et Moïse s'enfuit devant lui. Mais l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et il redevint un bâton dans sa main, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, t'est apparu. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, il la retira, et voici, sa main était lépreuse, blanche comme la neige.
Dieu dit alors, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, et lorsqu'il la retira, elle était redevenue, comme le reste de son corps. « S'il ne te croit pas, dit Dieu, et n'écoute pas le message du premier signe, ils croiront peut-être à celui du second. Et s'ils ne croient même pas ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil, tu la répandras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. » Moïse dit, « Ils ne me croiront pas, alors Dieu lui donne trois signes. Il transforme le bâton en serpent. Il rend la main de Moïse lépreuse, puis il la guérit. Et il dit à Moïse qu'il peut changer l'eau en sang. Dieu dit que ces signes sont là, pour que le peuple croie Moïse. Mais cela a aussi dû encourager Moïse lui-même.
Aux yeux humains de Moïse, il ne voit pas la possibilité que le peuple le croie. Alors Dieu accomplit des signes juste devant lui. Dieu dit encore, « Je le ferai à travers toi. S'ils ne te croient pas, je leur donnerai un signe. S'ils ne croient pas à ce signe, je leur en donnerai un autre. S'ils ne croient pas à ce signe non plus, je leur donnerai encore un autre signe. » Dieu dit que s'ils ne le croient pas, lui, Dieu, les convaincra. Est-ce suffisant pour Moïse? Mais Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Doute numéro 4. Je ne suis pas assez talentueux. Moïse dit, « Je ne parle pas assez bien. Je parle lentement. Je ne suis pas assez talentueux. Je ne suis pas assez doué pour faire cela. » Dieu avait donné à Moïse les paroles à dire. Mais Moïse dit, « Je ne suis pas assez doué pour transmettre ce message. »
D'une part, on peut féliciter Moïse de ne pas être arrogant et de ne pas dire, « Je peux le faire, pas de problème. » Il n'est certainement pas arrogant ici. Mais il ne se tient pas à la place où Dieu l'a appelé. Il ne fait pas confiance au fait que Dieu peut agir à travers Moïse. Un auteur a dit, « Moïse disait, « Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas », tout en oubliant que Dieu venait de lui donner son nom, le grand « Je suis ». Dieu connaît déjà tes faiblesses. Mais la Bible dit que lorsque nous sommes faibles, c'est lui qui est fort. C'est lui qui reçoit la gloire.
Ne te concentre pas sur toi-même en disant « Je ne suis pas ». Souviens-toi de qui est Dieu, qu'il est le grand « Je suis ». Après tout, c'est Dieu qui t'a créé, comme il le dit à Moïse. Puis l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, va, et je serai avec ta bouche et t'enseignerai ce que tu devras dire. » Dieu dit, « J'ai fait ta bouche. je serai avec ta bouche. Je mettrai les paroles dans ta bouche. Allons, partons. Mais Moïse a encore une dernière objection. Mais il dit, « Ah, Seigneur, envoie, je te prie quelqu'un d'autre. » Doute numéro 5, je ne suis pas la meilleure personne pour la mission. Finalement, Moïse dit, « Envoie quelqu'un d'autre, Seigneur. Quelqu'un d'autre peut accomplir la mission mieux que moi. Envoie quelqu'un de plus talentueux et expérimenté. Il y a quelqu'un de mieux pour cette tâche. Ne m'envoie pas, Seigneur. »
D'un côté, Moïse avait probablement raison. Il y avait probablement d'autres personnes qui étaient plus préparées ou expérimentées, disons. Nous savons que le frère de Moïse, Aaron, était un meilleur orateur que Moïse. Donc, d'un côté, Moïse avait probablement raison. Quelqu'un d'autre pouvait faire le travail mieux. Mais d'un autre côté, Moïse avait complètement tort. Parce que Dieu n'a pas appelé Aaron pour cette tâche. Dieu n'a appelé personne d'autre à faire sortir son peuple de l'esclavage. Dieu a appelé Moïse. Moïse serait l'instrument de Dieu. Par conséquent, Moïse était la personne exactement appropriée pour cette mission. Dans le monde des affaires, les gens obtiennent des emplois en fonction de leurs connaissances et de leur expérience. Plus vous avez de connaissances et d'expérience, en général, meilleur sera l'emploi que vous trouverez. Et c'est encore mieux lorsque vous êtes un spécialiste. Lorsque vous avez un ensemble particulier de compétences et de talents qu'une entreprise peut utiliser, et vous placez à un poste où vous pourrez utiliser ces compétences particulières. C'est ainsi que fonctionne le monde des affaires. Mais lorsque vous lisez la Bible, nous ne voyons pas beaucoup de spécialistes. Comme je l'ai dit, à ce moment-là, Moïse avait été berger pendant 40 ans. Les disciples de Jésus étaient principalement des pêcheurs sans instruction. L'apôtre Paul était opposé aux enseignements du Christ avant que Dieu ne l'appelle. En d'autres termes, rien dans leur expérience ne suggérait que Dieu les utiliserait pour accomplir de grandes choses pour son royaume.
Mais ils avaient le facteur X. Dieu les avait appelés et Dieu agirait à travers eux.
Voici mon point principal. Tiens-toi à la place où Dieu t'a appelé. N'essaie pas de t'enfuir, comme Moïse. Ne reste pas sur le banc de ta propre vie à regarder le temps passer. Au contraire, tiens ferme. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait faire mieux? Probablement. Mais ces personnes ne sont pas à la place où toi tu es. Au travail, à l'école, dans ton quartier, dans cette relation. Elles n'y sont pas, mais toi, tu y es. Fais confiance au fait que Dieu t'a placé à cet endroit intentionnellement et pour un but précis. Crois que tu n'es pas là par accident. Crois que le Saint-Esprit peut te donner les paroles à dire et les oreilles pour entendre. Tiens-toi à la place où Dieu t'a appelé. Parfois, lorsque nous pensons à l'appel de Dieu, nous l'envisageons comme une seule grande chose. Nous nous demandons, quel est ce but unique que Dieu a pour moi? Il y a effectivement des personnes à qui Dieu a donné un appel très spécifique, comme Moïse dans cette histoire, ou l'appel de Dieu à Jonas pour aller à Ninive, ou l'appel de Paul pour partager l'évangile avec les païens. Ces personnes ont reçu un appel très précis du Seigneur. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, Dieu nous appelle à de nombreuses choses différentes en fonction de l'état de vie où nous nous trouvons, de là où nous en sommes dans notre marche avec Christ et des besoins de l'Église à ce moment-là.
J'ai raconté cette histoire de nombreuses fois, mais lorsque j'étais plus jeune, j'ai toujours pensé que la musique serait mon ministère. J'aimais la musique. J'ai grandi en jouant de la musique. C'était ma passion. C'est toujours ma passion. Et quand j'étais au séminaire, je dirigeais la louange dans une petite église. J'y étais depuis quelques mois, lorsque soudainement, le pasteur est parti rejoindre l'armée pour y être pasteur. Puisque je recevais une formation théologique au séminaire, les anciens de l'église m'ont demandé si je pouvais prêcher pendant qu'ils cherchaient un nouveau pasteur, À ce moment-là, je n'avais prêché qu'un seul sermon dans ma vie, et il n'était pas très bon. Je n'avais pratiquement aucune expérience, j'avais 24 ans. Je voulais dire non, mais j'ai senti le Saint-Esprit m'encourager à faire un pas de foi et à dire oui. Alors j'ai dit oui. Je pensais m'engager à prêcher pendant 4 mois, le temps qu'il trouve un nouveau pasteur, mais cela a finalement pris 1 an et demi pour en trouver un. Et ces sermons des premiers mois n'étaient pas très bons, à mon avis. Mais avec le temps, ils ont commencé à s'améliorer. J'ai commencé à prendre plaisir à les prêcher. Et si je suis ici aujourd'hui, en train de vous prêcher, c'est grâce à cette opportunité. Ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai accepté cette opportunité, ce n'était pas parce que j'avais beaucoup de dons ou d'expérience dans ce domaine. Il y avait certainement d'autres personnes qui auraient pu faire un meilleur travail. J'ai dit oui parce qu'il y avait un besoin et que je sentais que le Seigneur me poussait à faire ce pas de foi. Dieu nous appelle à de nombreuses choses différentes, en fonction de notre étape de vie, de là où nous en sommes dans notre marche avec Christ, et des besoins de l'Église à ce moment-là. Dieu vous a déjà appelé à beaucoup de choses. Il vous a appelé à être un membre de la famille aimant. Il vous a appelé à être un mari pieux, une femme pieuse, un fils pieux, une fille pieuse, un parent pieux, un grand-parent pieux. Il vous a appelé à être un employé pieux, un étudiant pieux, un ami pieux. Il vous a appelé à être une lumière dans votre quartier, dans votre cercle d'amis. Dieu vous a appelé à prendre votre croix et à le suivre. La liste pourrait continuer encore et encore. Ce que je veux dire, c'est que Dieu ne vous a pas appelé à une seule chose. Il vous a appelé à beaucoup de choses. La question est, allez-vous fuir ces choses? Resterez-vous assis sur le banc de votre vie et la laisserez-vous passer? Ou allez-vous tenir ferme là où Dieu vous a appelé aujourd'hui? De la même façon que cette montre me rappelle de me lever chaque heure. Ceci est un rappel de tenir ferme. Tous les doutes de Moïse, toutes ces questions, elles sont valides. Je suis sûr que nous nous sommes tous sentis comme Moïse à un moment ou à un autre. Ces sentiments sont réels. Mais il ne s'agissait pas de la force de Moïse, c'était Dieu qui agissait à travers Moïse. Permettez-moi de vous rappeler aujourd'hui que le Seigneur est avec vous. Lorsque vous êtes faible, il est fort. Ne vous fiez pas à vous-même. Faites confiance au Seigneur, le grand je suis. Tenez ferme à l'endroit où Dieu vous a appelé aujourd'hui. La fin du sermon.